Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 10 novembre 2023. Vous êtes sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington DC, ici même aux États-Unis. Et ce soir, nous parlons des élections. Troisième débat républicain, troisième occasion pour Donald Trump de jouer les troubles faits. 5 candidats républicains à l'élection présidentielle américaine de 2024 se sont affrontés mercredi sans l'ancien président favori des sondages et bien décidé à voler la vedette. Comme il l'avait fait lors des deux précédents débats, le milliardaire a choisi de snober ce rendez-vous en raison, selon lui, de sa très large avance dans les enquêtes d'opinion républicaine. Malgré ses 4 inculpations, Donald Trump écrase actuellement la course chez les républicains, caracolant en tête avec autour de 58% des intentions de vote. L'actualité politique américaine a aussi été marquée cette semaine par les élections locales qui se sont tenues mardi dans plusieurs villes. La démocratie a gagné et Make America Great Again a perdu, s'est réjoui le président Joe Biden. En référence à un slogan cher à Donald Trump, son potentiel adversaire à la présidentielle prévue l'année prochaine. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le 7 novembre aura finalement été un grand jour pour les démocrates qui ont remporté plusieurs succès, notamment succès notable dont d'où le tweet optimiste du président Joe Biden. C'est donc de politique et des élections dont nous parlons ce soir. Alors qu'on entame la dernière ligne droite avant la présidentielle de 2024. Pour nous accompagner dans ce programme, nous avons comme invité ce soir Ruben Joannet. Et il nous rejoint donc de Minneapolis. Vous êtes activiste, Ruben Joannet, bonsoir.
Bien sûr, bonsoir John et bonsoir à tout le monde. Je suis activiste et je vis à Minneapolis dans le Minnesota et là je suis en train d'observer ce qui se passe pour tout ce qui a trait aux élections, aux prochaines élections présidentielles ici aux États-Unis. Et je dois vous dire que les démocrates sont en face d'une ambiguïté énorme.
Et justement, nous en parlerons tout à l'heure, Ruben. Merci d'être là. Également invité ce soir, Joël Didier Ngo. Il est avec nous en direct de Paris, en France. Vous êtes spécialiste des relations internationales. Joël Didier Ngo, bonsoir.
Bonsoir à vous tous aux États-Unis. Merci de m'avoir invité.
Et c'est un honneur de vous avoir dans cette émission. Nous aurions également probablement dans cette émission Junior Bonpetit qui devrait nous appeler de Dallas. Il est républicain, nous l'aurons certainement. Alors, je vais commencer donc avec vous, Ruben Joannet. Mardi était jour d'élection dans bon nombre d'États ici aux États-Unis. Que retenir des différents résultats qu'on a pu avoir?
Oui, comme vous venez de le dire, mardi, c'était les élections ici, surtout dans les régions, des élections régionales. Surtout ici, dans le Minnesota, nous avons eu des résultats très intéressants. Et je dois le signaler également que dans l'un des arrondissements le plus conservateur de la région métropolitaine, ici dans le Minnesota, on venait d'élire une jeune Somalienne à la tête d'un arrondissement très conservateur ici dans le Minnesota. Donc ici, c'est une très bonne nouvelle, mais je m'empresse de dire également que deux hirondelles ne font pas le printemps. C'est un peu ça, donc il faut maintenir toujours la surveillance et on va voir jusqu'où ça va aller et surtout, c'est déjà un signe annonciateur des choses à venir par rapport aux élections présidentielles prochaines.
En tout cas, c'est une élection qui semble faire bouger les rangs. Joël Désiré Ingo, quand vous regardez comment ça se passe ici en politique, parfois un an avant même la présidentielle, pour ne prendre que ce cas, les candidats, les camps sont sur les starting blocks. Comment vous voyez cette façon à l'américaine de faire la politique?
C'est vrai que je regarde ça avec un œil externe, mais sachant quand même que j'ai vécu aux États-Unis pendant 6 ans en Californie, à San Francisco. Donc, disons que je vois ça, les élections de mardi traduisent aussi souvent la déconnexion qu'il y a entre les préoccupations locales et les enjeux nationaux ou fédéraux, hein, quand on se situe aux États-Unis. C'est vrai que ce que j'observe, c'est que cette élection a un an, elle n'est pas encore vraiment, contrairement à ce que disent les sondages, elle n'est pas encore, on ne peut pas encore spéculer dessus, parce qu'on a bien vu que, contrairement à ce que prévoyaient les sondages, les différents sondages nationaux aux États-Unis, les démocrates ne s'en sortent pas mal, parce que sur les questions d'enjeux locaux et même au-delà national, on a vu la question sur l'avortement, qui a énormément mobilisé, qui mobilise surtout l'électorat féminin. On peut se dire que ce qui s'annonce dans un an n'est pas forcément ce que nous prévoient, nous prédisent les sondages récents aux États-Unis.
En tout cas, Junior Bonpetit est avec nous. Vous êtes à Dallas, vous êtes républicain, partisan de Donald Trump. Bonsoir, bienvenue dans cette émission.
Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation, John.
Alors, après la publication des résultats de ces élections dans certains États, Joe Biden a déclaré que la démocratie a gagné et que Make America Great Again avait perdu. Le président américain s'en est d'ailleurs réjoui. Comment ces résultats ont été accueillis dans le camp républicain auquel vous appartenez?
Oui, c'était un sentiment de regret. Parce que c'était pas nos prévisions, mais ce que ces élections nous donnent comme enseignement, c'est que nous devons un peu rectifier notre tir par rapport aux questions de l'avortement, essayer d'être un peu beaucoup plus large au lieu dans certains États 6 semaines ou 8 semaines, aller peut-être à 15 semaines ou 20 semaines. Pour essayer de donner une certaine liberté aux femmes et aussi changer ces narratifs, de voir que nous, les républicains, nous sommes en train de restreindre la liberté des femmes. Le débat n'est pas à ce niveau de liberté, le débat est au niveau de protéger les bébés, de protéger les enfants. C'est à ce niveau-là que nous devons travailler le narratif dans l'opinion publique américaine.
En tout cas, pour ceux qui n'ont pas suivi ces élections, juste un petit rappel, on sait qu'en Virginie, le gouverneur républicain Glenn Youngkin a perdu sa majorité à la Chambre des délégués et devra cohabiter. Dans le Kentucky, le gouverneur démocrate Andy Beshear a remporté un deuxième mandat dans cet État où Donald Trump avait remporté l'élection avec une marge de plus de 25 points en 2020. Beshear a battu Daniel Cameron, un procureur général de l'État ayant des liens étroits avec Trump et le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnell. À New York, le démocrate Youssef Salam a été élu au conseil municipal. Il est l'un des 5 adolescents afro-américains et hispaniques condamnés, on s'en souvient à tort, pour le viol d'une joggeuse à Central Park. C'était en 1989. L'un des plus célèbres, ou plutôt l'une des plus célèbres erreurs judiciaires ici aux États-Unis. La victoire très symbolique a été fêtée dans son quartier de Harlem. À Philadelphie, pour la première fois, une femme démocrate devient maire. Il s'agit de Cheryl Parker, une ancienne conseillère municipale. On va prendre juste une petite pause et on se retrouve juste après.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
L'Amérique et vous, ce soir, se penche sur la question des élections, notamment ici aux États-Unis. Joël Désiré Ingo, on parle beaucoup d'élections, aussi bien donc ici aux États-Unis qu'en France, où vous vivez, et même ailleurs dans le monde. À la base, ceux qui sont élus sont à quelques niveaux que ce soit, ils sont censés représenter les électeurs et défendre leurs intérêts. Est-ce que vous avez le sentiment que lorsqu'ils sont finalement élus, après avoir battu campagne, après avoir fait des promesses, qu'il s'agisse des maires, des députés ou autres présidents, est-ce que ces gens tiennent leurs promesses et défendent vraiment les intérêts des populations qui leur ont donné leur confiance?
C'est vrai que c'est un problème. Il faut être là sur ce plan assez objectif qui s'oppose à toutes les grandes démocraties occidentales et libérales. C'est que souvent, entre les promesses de campagne et une fois l'expérience du pouvoir, au pouvoir, on se rend compte que les promesses ne peuvent pas forcément être... réalisées comme on les a faites, et il se passe immédiatement un problème, comme vous voyez aux États-Unis avec Joe Biden, qui est un problème qui est que le candidat ou le président, la personne qui est au pouvoir, devient impopulaire, parce qu'on a l'impression qu'il ne fait pas ce qu'il a promis. Ce qui fait que de moins en moins on fait de promesses dans des campagnes et on s'en tient à des grandes lignes sur les généralités, parce qu'on se rend compte que d'une part les conjonctures sont instables, la conjoncture économique et même la conjoncture, comme on voit les crises internationales. Ce qui fait qu'en France, notamment aujourd'hui, on ne spécule plus trop comme on le faisait avant sur ce qui se passera dans 4 ans, lorsque Macron ne sera plus là, qui sera son prochain, qui pourrait être son dauphin, parce qu'on ne sait pas. L'électorat est mouvant, l'électorat est devenu presque très exigeant et vit des élections presque comme si c'était un peu consumériste. C'est justement au moment des élections où les gens sont devenus tatillons et ils observent et ils bougent d'une ligne à une autre. Les gens ne sont plus marqués par rapport à une idéologie, ils sont marqués par rapport aux exigences, comme je vous ai dit à un moment, sur des enjeux parfois très locaux, des enjeux qui touchent directement des causes, comme je vous disais, l'avortement, ça se retrouve partout.
On en parlera d'ailleurs après.
Oui, même en France, parce qu'en France, on a constitutionnalisé le droit à l'avortement ici, pour vous montrer comment ces enjeux sont devenus déterminants. Les lignes ne sont plus forcément de gauche, droite, mais à l'intérieur même des familles de gauche ou de droite, vous trouvez des différences là-dessus. Et les électeurs bougent aussi comme ça, entre les lignes.
Alors, Junior Bonpetti, votre champion, entre guillemets, je rappelle que vous ne parlez pas au nom du Parti républicain, vous êtes simplement de ce parti. Votre champion, donc, l'ancien président américain Donald Trump, mène dans les sondages côté républicain. Dans un nouveau sondage, il est devenu il est devant, autant pour moi, le président Joe Biden dans les intentions de vote dans 5 États clés pour la présidentielle de 2024. Vous pensez qu'il est bien parti pour revenir à la Maison-Blanche malgré ses déboires judiciaires?
Oh oui, effectivement, l'ancien président Donald J. Trump est bien parti pour succéder à l'actuel président, être le 47e président américain. Pourquoi? Parce que on a vu son bilan, on compare avec le bilan de Joe Biden. À la différence, Joe Biden, à 2020, on lui donnait un bénéfice de doute. Personne ne savait, connaissait son parcours, son bilan en tant que président de la République, parce qu'il a été pendant ces temps-là que vice-président, et aussi il avait sa carrière de plus de 40 ans comme sénateur. Maintenant que nous avons vu ses limites, son bilan qui est mitigé. Et là, maintenant, le peuple américain, dans son ensemble, dans sa majorité, je voulais dire, réclame Donald Trump. Pourquoi? Parce que nous avons vu l'économie. Durant le président Trump, le taux de chômage était moindre, l'inflation était stable, le pouvoir d'achat, les prix de l'essence, les prix des biens des premières nécessités étaient à moindre coût. C'est abordable au pays, aux citoyens moyens. Les inégalités sociales n'étaient pas aussi grandes comme maintenant à l'époque de Biden. Donc le peuple américain, l'Américain profond et l'Amérique profond réclame ses leaderships, même sur le plan international. Aujourd'hui, l'Amérique, l'image de l'Amérique est faible. Nous voyons un président qui est faible. Et quand nous voyons les montées des guerres, la guerre de l'Ukraine et la Russie, la guerre de maintenant l'Israël et Hamas, si nous avions un président aussi fort, un leadership fort qu'incarnait Donald Trump, on n'allait pas avoir ce genre de choses, puisque pendant les quinquennats de Trump, il y avait une relative accalmie sur le plan international. Vous voyez, donc, toutes ces choses, tous ces agrégats montrent à suffisance que Donald Trump et sera bel et bien, sauf imprévu, les prochains présidents, les 47e président américain. Et aussi, nous devons aussi changer les fusils d'épaule de notre côté sur ce plan de questions sur l'avortement. Nous avons vu ça sur les questions des deux dernières élections sur les congressmen et maintenant. Nous avons vu que nous devons essayer un peu de mettre de l'eau dans notre moulin pour gagner, parce que c'est les démocrates flirtent sur ça. Sur ces questions d'avortement. Alors nous devons essayer un peu de rectifier les tirs pour ne pas leur donner l'occasion de rafler l'électorat féminin.
Alors, Ruben Joannem, est-ce que vous partagez ce que Junior Bonpetit est en train de dire, d'autant plus que une certaine opinion et même certains électeurs démocrates ne cachent pas leur inquiétude sur l'âge de Joe Biden en tant que candidat pour la présidentielle de 2024. Est-ce que c'est un facteur déterminant et est-ce qu'il est finalement prêt, Joe Biden, pour être candidat en 2024? Est-ce qu'il sera choisi en fin de compte?
Bon, en tout cas, je vous entends un peu mal et la communication n'est pas très claire en ce moment.
Oui.
De toute façon, Joe Biden, aux élections présidentielles 2024, représente un père, un patriarche vénérable. Bien que sa candidature soit problématique, mais les sondages ne révèlent pas toujours ce qui va se passer dans les suffrages, parce que il y a eu des surprises et il y en aura encore beaucoup de surprises, parce que Joe Biden est là un peu affaibli. Vraiment, il y a la question de son âge qui est problématique, mais quand même, face à Donald Trump, qui se trouve empêtré dans une multitude de problèmes au niveau de tout ce qui s'est passé le 6 janvier et à la fin de son mandat. Et il y a beaucoup de personnes qui ont voté pour Donald Trump auparavant, qui ne le feront pas certainement prochainement. Donc, là encore, puisque Joe Biden a pu quand même maintenir un niveau appréciable pour ce qui a trait à l'économie ici aux États-Unis, donc il a encore quelques éléments, quelques
chances.
Voilà le mot que je cherche. Il reste encore quelques chances dans son camp. Donc, par rapport à Donald Trump, qui est quand même un candidat problématique, Joe Biden peut encore avoir certaines possibilités de maintenir sa position comme président aux prochaines élections.
Alors, merci Ruben Joannem. Joël Désiré Ingo, on parle de l'âge de Joe Biden. On parle de l'âge de Joe Biden. Est-ce que cette problématique, cette question de l'âge du président américain, est-ce qu'elle est évoquée en France, vous qui avez la France, un président relativement jeune?
Disons qu'en France, on a un président jeune en âge, mais qui a des réflexes de vieux en France politique. C'est la vieille droite française. Donc, ce qu'il faut dire aux États-Unis, ce dont on parle en France par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, c'est vraiment de dire qu'on constate de loin que les deux candidats, hein, aussi bien Joe Biden et
Donald Trump,
on ne sent pas un enthousiasme de l'électorat américain de refaire le match, hein, pour être tout à fait honnête. C'est ce qu'on ressent d'ici. Et la perspective, parce qu'on appuie sur l'âge de Joe Biden, Donald Trump aura au moins 78 ans l'année prochaine. Donc, c'est les deux sont vus quand même comme des gens qui sont aujourd'hui de l'ancienne génération. Et on aurait j'aurais aimé que du côté vu de France, il y ait un renouvellement un peu dans le personnel politique ou les candidats aux États-Unis. Mais cela étant dit, il faut quand même aussi dire que quand on connaît la politique américaine, ce serait trop prématuré de dire à partir d'un sondage ce qui se passera dans un an. Parce que lorsqu'on voit dans le fond comment Joe Biden, parce que le nerf de la guerre aux élections américaines, c'est aussi l'argent. Et quand on voit comment Joe Biden arrive à faire des collectes de fonds, il est leader dans en cette matière jusqu'à présent, on se dit quand même que lorsqu'on va rentrer dans le dur du dur de la campagne, il n'aura pas tellement de difficultés à revenir sur les fondamentaux qui concernent, qui intéressent véritablement les électeurs démocrates et notamment la partie vraiment progressiste du Parti démocrate qui réchigne actuellement à cause d'une série de choses, notamment de la guerre qu'il y a au Moyen-Orient. On voit tous les remous qu'il y a actuellement. Mais je pense qu'il ne faut pas d'emblée déjà mettre Joe Biden comme perdant parce qu'il a une possibilité non seulement de se refaire, mais aussi il a une arme de guerre qui est très importante, qui est l'argent.
Et on a encore au moins une année, moins d'une année devant nous. Autre fait majeur lors des élections américaines du 7 novembre, Junior Bonpetit, c'est que les habitants de l'État de l'Ohio ont approuvé un amendement constitutionnel protégeant donc, on l'évoquait tout à l'heure, le droit à l'avortement. Quelle est l'importance de cette mesure pour vous? Est-ce que comment vous le disiez tout à l'heure, comment entendez-vous rectifier le tir pour aligner vos idées à celles de la majorité des Américains?
Merci pour cette question. Vous savez, un des critères ou des valeurs d'un grand leader, c'est sa capacité de s'adapter à une question donnée, une question sociale, sociétale. Et le président Donald Trump a montré ses capacités, alors qu'en 2015, lorsqu'il a annoncé sa candidature, les gens prêtaient, donnaient toutes les étiquettes qu'il était un novice, outsider. Mais on a vu pendant ces 5 ans comment il a fait des choses. Donc pour répondre à la question, c'est que nous allons nous adapter par rapport à la question de l'avortement qui est très sensible et voir comment aussi concilier cette question à notre sens conservateur de protéger la vie humaine, la vie de bébé, parce que la société américaine, c'est une société vieillissante. Nous avons besoin de beaucoup plus d'enfants, beaucoup plus de bébés pour être compétitive. Regardez ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en Afrique. Ouais, et un taux de croissance très élevé. Alors qu'ici, la société devient vieillissante. Donc, nous devons balancer ces deux choses pour voir l'avenir de l'Amérique et garder l'Amérique great
voilà.
Again.
Très rapidement, en quelques secondes, si vous le pouvez, Ruben Joannem, quel rôle peut jouer la question de l'avortement dans les élections de 2024 dans l'Ohio et même de manière générale dans tout le pays?
Ben voilà, cela a poussé beaucoup de gens à traverser le camp qui étaient auparavant des conservateurs zélés qui votaient toujours avec les républicains. Mais on a vu pendant les dernières, il y a eu un tour d'élection où les gens attendaient à ce que tout le monde allait supporter les républicains, mais ça n'a pas été le cas. À cause de ce problème.
Voilà.
Donc, on peut s'attendre à ce que ça, à cette question, cette problématique de l'avortement ait des répercussions aussi sur les élections présidentielles prochaines.
Voilà.
Parce qu'il y a des gens mécontents dans le camp des républicains qui se sont dit, bien que nous sommes républicains, mais à ce point, il nous faut prendre, il nous faut une décision.
Voilà, merci. Malheureusement, Ruben, malheureusement, on est arrivé à terme de cette émission. Joël Désiré Ngo, en un mot, comment appréciez-vous la gestion des crises ou des guerres en Ukraine et entre Israël et le Hamas par Joe Biden, en un mot?
Pour nous, de l'extérieur,
extérieure a été à une bonne gestion, une gestion qu'on attendait plus d'un président américain, puisque l'Amérique était un peu éloignée des questions internationales pendant
voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est la fin de cette édition de l'Amérique et vous présentée par John Linden. Production Joselle Boris, merci à tous nos invités pour leur disponibilité et à vous d'avoir suivi l'information. On vous revient tout de suite avec Jean-Roger Billon.